C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Boris Pasternak, poète, romancier. 1890-1960, russe puis soviétique. Issu d'une famille de la bourgeoisie intellectuelle juive ruinée par la Révolution, lui-même vivant de traduction et allant plus ou moins nettement vers le christianisme, hétérosexuel. Œuvre Le Docteur Jivago, première édition en Italie en 1957, traduction française en 1958, première édition soviétique en 1987 en revue, en volume en 1988. Personnage Yuri Andreyevitch Jivago. Adaptation au cinéma, un film de David Lean en 1965, le rôle de Jivago étant interprété par Omar Sharif. En novembre de cette année 2019, la Chine a demandé au ministre de la Culture de la Suède de ne pas assister à la remise du prix Tucholsky à un Chinois naturalisé suédois, Gui Minhai, éditeur emprisonné dans un lieu inconnu en Chine. Le ministre de la Culture a refusé de céder en disant « Nous avons la liberté d'expression, point final ». L'ambassadeur de Chine, qui avait multiplié les pressions et même osé téléphoner à la ministre, a qualifié cette récompense de « grave erreur » et a ajouté que, je cite, « les mauvaises intentions ne rencontrent jamais que des conséquences négatives ». C'est-à-dire que la Chine a menacé un gouvernement européen. Le stalinisme, c'était cela, la menace perpétuelle et vague, car on ne savait jamais suivant quel caprice on risquait d'être jugé. C'était aussi la négation absolue des faits. Regardant la Lune, un stalinien disait « elle est carrée ». Et si l'on répondait « elle est ronde », on était secrètement abattu si on était poète, car les poètes n'ont pas d'audience. Et si on était politicien, un procès public était mis en scène pour que tout le monde tremble. Le stalinisme est moins la répression des opinions contraires que l'interdiction de toute opinion. Boris Pasternak, qui avait soutenu la révolution soviétique, a vu ses amis écrivains assassinés d'une façon ou d'une autre par les tyrans qui ont suivi. Son tempérament évasif qui le poussait à se détourner des choses tonitruantes l'a sans doute aidé à ne rien écrire de dangereux et d'ailleurs Staline ne l'a pas persécuté. Cependant, même ne rien écrire est douteux aux yeux des fanatiques. Ils veulent que les autres soient compromis. Et un jour, Pasternak n'a plus tenu. Il a écrit Le Docteur Jivago. C'est un roman qui n'est certes pas guère épais, mais il y a des livres qui sont grandis par ce qui leur arrive. C'est moins sa naïveté, ce côté la mélodie du malheur des aventures qui a nuit à l'URSS, que le bruit mondial que ce roman a fait. Et ce bruit, il a été enclenché par les soviétiques eux-mêmes. S'il s'était tu et avait laissé Le Docteur Jivago être publié, peut-être aurait-il été vendu à 5000 exemplaires, et puis rien. Les chiens de garde gardent, mais il arrive qu'ils réveillent tout le monde et que l'on voit que ce qui ne va pas, ce n'est pas le facteur, mais les chiens. Qui est le docteur Jivago? Pour en parler, je reçois Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, qui vient de publier une chronologie des mondes communistes de 1919 à 1989 chez Perrin, Le siècle rouge. Jean-Christophe Buisson, à quoi ressemble ce docteur Jivago dans le roman de Pasternak? Je veux dire à ses divers aspects de l'âge adulte, puisque je crois que nous faisons sa connaissance enfant.
Il y a une description qui est très rapide, puisque il n'est décrit physiquement qu'une seule fois. C'est assez étonnant, dans tout le roman, et encore ce n'est pas par Boris Pasternak lui-même, mais par Lara, la femme dont il tombera éperdument amoureuse, lorsqu'ils sont tous les deux sur le front durant la guerre de 14-18 dans un hôpital. Il a reçu un éclat de shrapnel, il est allongé, et elle le regarde, et elle se dit « quel homme étrange et curieux, jeune et peu aimable, le nez camus, on ne peut pas dire qu'il soit bien beau ». Donc on ne sait pas s'il est grand, s'il est gros, s'il est petit, s'il a une moustache comme Omar Sharif.
Que signifie ce nom de Jivago? Car je crois qu'en langue russe, il a une signification.
Oui, alors Pasternak prétendait, lorsque Chalamov, l'auteur des récits de la Kolyma, lui a demandé un jour que ça sonnait sibérien, ça faisait sibérien. Mais Jivago, il y a la notion de Jiva qui est la vie dans la langue russe, et en vieux russe, en vieux slavon, ça veut dire ressuscité, vivant à nouveau. Et c'est intéressant comme notion parce que Jivago a le sentiment qu'après la première révolution russe, il y a une renaissance de la Russie et des êtres vivants. Donc il renaît. Et comme dans tout le livre, il ne cessera de tomber sentimentalement, physiquement, il s'évanouit de temps en temps, il est sur le point de mourir à plusieurs reprises, il renaît à chaque fois, comme les amours qui ne cesseront de renaître avec sa maîtresse Lara.
Donc ça n'est pas un nom qu'on doit interpréter comme « il est vivant contre le régime ».
Ah, bien sûr que si. On peut aussi l'interpréter comme ça, absolument. Là, je parlais de son point de vue, enfin du point de vue de l'histoire, de la narration. Il revit sans cesse, mais politiquement, il y a évidemment une exception. Il est vivant par rapport à la mort que représente la Révolution, mais dans sa phase, dans sa seconde phase, parce que on voit très bien au début du livre que il est plutôt favorable à la Révolution parce qu'il a vu des horreurs lorsque la Révolution ratée de 1905, il a vu des Cosaques massacrer des civils, des femmes et des enfants. Donc lorsque la première Révolution de février 17 éclate, il est plutôt favorable à cette Révolution. Justement, il pense qu'elle va redonner la vie à la Russie qui est en train de se scléroser, qui est rigidifiée. C'est la seconde Révolution, celle des bolcheviks, qui va rapidement lui faire horreur.
Alors, que lui arrive-t-il à ce Jivago au cours du livre? Au début, on l'a dit, on le trouve enfant, il assiste à l'enterrement de son père, qui s'est, je crois, suicidé.
Il s'est suicidé à la suite de mauvaises affaires, et il a manifestement été poussé au suicide par un homme qu'on verra plus loin, qui s'appelle Komarovski, dont l'ombre plane sur tout le livre, puisque lui aussi est amoureux, et plus que cela, de cette fameuse Lara, qui va être le fil conducteur de la vie de Jivago. Et effectivement, son père meurt, sa mère meurt, et il est adopté par une famille, une riche famille moscovite, intellectuelle, très proche des milieux artistiques.
Pardon, nous sommes évidemment bien avant 1905.
Bien avant, absolument. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Et donc, il va rejoindre Moscou. Et c'est là qu'il va assister justement à cette révolution manquée de 1905, même si à l'époque, c'est bien Saint-Pétersbourg qui est la capitale. Donc, c'est surtout là que ça se passe. Mais aussi, en 1905, il y aura des troubles à Moscou, auquel il va assister, mais il n'est encore que enfant, adolescent, et il va suivre des études de médecine, des études de médecine, comme son auteur, comme l'auteur Boris Pasternak, il sera aussi attiré par l'écriture, par la poésie. Donc il est, on voit tout de suite le personnage, parce qu'il hésite entre deux métiers, entre deux destins. Est-ce que je suis médecin et j'aide les autres, ou est-ce que je suis écrivain et je suis plutôt autour de moi-même, dans un destin un peu individuel? Mais il va suivre des études de médecine et se retrouver en 1914 sur le front, à aller soigner des soldats sur le front de Galicie.
Entre-temps, il s'est marié.
Il s'est marié à la fille de la famille adoptive chez qui il vit à Moscou, qui est une amie d'enfance, qui est une amie de jeu. Rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils sont plutôt amoureux. Il va se marier. Lorsqu'il va partir sur le front, eh bien, elle sera enceinte de leur premier enfant, qu'il ne va pas découvrir tout de suite, puisqu'il sera loin, effectivement, en guerre.
Alors, comment est-ce qu'il part exactement sur le front, et comment, ça, c'est une chose très intéressante dans le roman de Pasternak, c'est de voir comment la révolution se passe dans les armées.
Alors oui, alors les premières années, de 1914 à 1916-17, il assiste au délitement de l'armée russe après les premières défaites contre l'Allemagne. Il assiste à ça comme témoin neutre, d'une certaine manière. Lui, il est là pour soigner les gens, mais il n'est ni sourd ni aveugle. Il voit très bien que cette armée est travaillée par le doute, d'une part, et puis travaillée, effectivement, par les bolcheviks qui tentent de faire courir un discours défaitiste au sein de l'armée russe pour précipiter la victoire de la révolution. Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi, parce que là on y voit beaucoup évidemment la patte de Pasternak, qui est issu d'une famille juive. Il est horrifié évidemment par ce qu'il voit sur le front, par les blessés, par les batailles, mais il est aussi horrifié par l'attitude de certains membres de l'armée qui multiplient les pogroms contre les juifs. Et là, il y a des réflexions. Et c'est pas inintéressant lorsqu'on sait que le livre évidemment paraîtra à une époque où l'antisémitisme d'État a un petit peu cours en Russie soviétique. Il se dit, ces gens-là, on les considérait comme pas assez russes, donc on les envoyait à Odessa, on les envoyait dans des zones, et maintenant on leur reproche de ne pas être assez patriotes, de ne pas assez combattre. Donc il faudrait savoir. Et là, c'est intéressant parce que dans tout le livre, on a comme ça des petites saillies, des petites remarques qui émanent effectivement de Pasternak lui-même. Donc sur le front,
Pardon de vous interrompre, parce que c'est une chose intéressante et importante. C'est une chose qu'il remarque à propos du régime tsariste, ou disons des officiers de l'armée, mais il ne le fait pas pour la période soviétique, alors que lui écrit le livre peu de temps après la nuit des poètes assassinés, qui est le moment où il y a eu une rafle chez les poètes juifs qui ont été exterminés en réalité en tant que tels plutôt qu'en tant que...
Bien sûr, mais Docteur Jivago, c'est un livre qu'il écrit à l'adresse, il me semble, de Nicolas II, de Lénine, de Staline, de Trotsky, de Kerensky et de Khrouchtchev.
Certainement, mais en quoi ça empêcherait qu'ils disent à Khrouchtchev ou à son Staline imaginé, vous aussi, vous êtes maintenu avec les juifs?
Ah bah, à l'époque où il l'écrit, dans les années 50, on est après le complot des blouses blanches, en 1953, juste avant la mort de Staline, quand on est persuadé que des sionistes, donc des juifs, veulent l'assassiner. Là, c'était une déclaration de guerre frontale.
Alors, revenons à la guerre, la Première Guerre mondiale. Les bolcheviks travaillent l'armée et finalement le coup d'État a lieu et la révolution a lieu.
Voilà, et il rentre. Alors, première révolution de février 1917 avec Alexandre Kerensky, cet avocat qui enthousiasme à peu près toute la Russie. C'est pour ça que l'abdication du tsar s'est passée aussi vite et sans grande violence, parce que ce système était effectivement à bout. Le tsar lui-même était un peu abandonné par les gens autour de lui. Donc personne ne regrette vraiment dans les premiers temps cette révolution et cette république qui hésite. Est-ce qu'on va très très loin dans une politique sociale, ce que souhaitent les bolcheviks? Et on arrête la guerre, ou est-ce qu'on continue la guerre, on instaure une république un peu parlementaire, sociale, mais pas trop? C'est l'option de Kerensky, et c'est évidemment ce que souhaite le docteur Jivago. Et lorsqu'il revient après l'été 1918 à Moscou, c'est fini. Moscou a été pris par les Rouges, par Trotsky, par ce coup d'État. Et là, d'un seul coup, il comprend tout de suite que le régime va dériver dans une option qui ne lui plaît pas parce qu'elle ne ressemble pas à celle de 1905. Il est nostalgique pendant tout le livre de cette révolution de 1905, cet espoir évanoui. Et surtout, il comprend que tout ne va être que collectif désormais.
Enfin, c'est un peu moins explicite ce que vous ne le dites, c'est pas exprimé aussi positivement.
Oui, mais par exemple, lorsqu'il revient à Moscou, il est immédiatement mis, il retrouve la maison où il a grandi avec la famille de sa femme.
Qui est devenu un
appartement communautaire. Donc il voit bien que désormais, il faut tout partager, il faut tout donner. Et donc c'est pour ça qu'il va fuir aussi, il va fuir le typhus, et il va fuir de l'autre côté de l'Oural, dès mars 1918, fuir cette révolution qui ne lui plaît pas. De l'autre côté de l'Oural. Ouais.
Je crois que vous avez dit un mot important, c'est que il fuit effectivement, il fuit en permanence. Alors on peut pas employer le mot de fuyard parce que c'est se connoter de choses beaucoup beaucoup trop graves et c'est pas du tout ce qu'il fait. Mais effectivement, il essaie de fuir. Je disais, c'est aussi le tempérament de Pasternak, qui n'aime pas les choses bruyantes, tonitruantes, brutales et imposantes.
Oui, c'est fuir, mais souvent pour mieux revenir, parce qu'il va fuir encore une fois. À un moment donné, il fuit son destin de poète en devenant médecin, mais il revient à son destin de poète qui est ou à son métier de poète. Il va fuir entre une femme et en tout cas naviguer entre deux femmes, donc fuir une femme pour une autre, puis fuir cette femme pour revenir à la précédente. Il va fuir géographiquement. Le docteur Jivago, rappelons-le, quand même aussi un grand roman géographique, autant qu'un roman d'aventure, un roman d'amour, c'est aussi un grand roman géographique. On se promène beaucoup en train, ce qui est à cette époque, donc on traverse les grands espaces qui résument la vastitude et quand même une caractéristique de la Russie d'hier comme d'aujourd'hui. Donc il est en permanence en train de fuir quelque chose, fuir un bonheur qui lui semble insatisfaisant, dans les bras de l'une puis dans les bras de l'autre, dans un destin collectif qu'il ne souhaite pas.
Alors justement, allant à l'autre, parce que nous faisons comme si c'était entendu, parce que tout le monde connaît ce livre ou presque, mais donc il faut dire qu'il n'a pas aussi, il n'a pas toujours le choix, c'est-à-dire qu'à un moment il doit être devenu, la guerre civile arrive, il devient médecin presque par force pour les troupes rouges qui se battent contre les blancs, et là il retrouve célèbrement une femme qu'il a connue ou aperçue à Moscou, qui est Lara.
Oui, il a fait plus que l'apercevoir, puisqu'il s'est retrouvé, c'est ça la magie de Pasternak, il y a beaucoup, beaucoup de rencontres fortuites dans ce livre, énormément, peut-être un peu trop, un peu exagéré, mais cette Lara, il l'avait croisée une ou deux fois, effectivement, à Moscou, lorsqu'il commençait son métier de médecin, et puis il l'avait croisée sur le front, là où elle l'a décrit, ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'elle était infirmière, et lui médecin. Et d'ailleurs, il parlait tellement d'elle lorsqu'il écrivait à sa femme restée à Moscou, que sa femme pensait même qu'il y avait peut-être quelque chose entre eux, en disant, mais quelle infirmière formidable, laissant entendre, si tu veux faire ta vie avec elle. Et lui, il se gardait bien, mais, comme dit Pasternak, il faisait des efforts sincères et surhumains pour ne pas l'aimer. Il était tombé amoureux de cette Lara Antipova, elle-même mariée à un soldat qui s'était engagé.
Larissa, même, puisque Lara est un surnom.
Larissa, voilà, bien sûr, ils ont tous des ça c'est très russe. Elle est mariée, elle aussi, à quelqu'un qui est sur le front, mais dont on n'a pas de nouvelles, donc elle pense qu'il a été tué, et tous les deux tombent mutuellement amoureux à ce moment-là. Et lorsque, après la révolution d'octobre, Jivago part dans l'Oural, un peu à l'abri de ce typhus, dans une ville imaginaire qui s'appelle Yuriatine, qui est sans doute la ville de Perm, de l'autre côté de l'Oural, avec sa femme et son enfant, son petit sage. Ils tombent à la bibliothèque, comme par hasard, évidemment, sur Lara, dont il retombe évidemment immédiatement amoureux. Et c'est là le cœur du livre. Il vit chez sa femme, avec sa femme et son fils, et en permanence, il va à la bibliothèque, puis à la maison de cette Lara, passer des nuits torrides, et hésitant en permanence, est-ce que j'abandonne ma femme, est-ce que j'abandonne ma maîtresse, c'est tout l'enjeu sentimental du livre.
Et puis là, on est donc dans une période plus calme de sa vie, même si elle est agitée à cause de la concurrence des amours, s'il est quand même éloigné de la violence, ce qui est un des motifs de sa vie. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale arrive.
Alors, après, sa femme finit par... lui-même est capturé par les Rouges, à un moment donné, qui l'emmène avec eux pour être médecin contre les Blancs, parce que la ville, dans cette région de l'Oural, est quand même conquise et reconquise et par les uns et par les autres. Et sa femme repart à Moscou, puis disparaît de Russie, quitte la Russie, comme la famille de Pasternak quittera la Russie. Et il se retrouve seul avec Lara, avec des moments absolument merveilleux. Et puis, le mari de Lara, qui n'était pas mort, est devenu un grand commandant de l'armée rouge, Strelnikov, sous le nom de Strelnikov. Il a été finalement tué, pense-t-on, fusillé. Elle est en danger. Elle part en Extrême-Orient avec son ancien protecteur, le fameux Komarovski. Et notre ami Jivago se retrouve seul, rentre à Moscou et là va décliner jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à 1929, où il va mourir en s'étant remarié une troisième fois, donc en ayant deux enfants à nouveau. Et on n'aura plus jamais de nouvelles de Lara. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, effectivement, lorsque le régime soviétique est installé, où les amis de Jivago, voient un jour une femme arriver et comprennent que c'est sans doute le fruit des amours de Jivago et de Lara, dont ils vont découvrir qu'elle est encore vivante, et puis elle va redisparaître à nouveau comme un fantôme dans le Moscou soviétique des années 40.
Je dois dire que si le roman a parfois des naïvetés de romans populaires, vous l'avez dit, beaucoup de coïncidences, enfin des éclats, des choses comme ça, il est quand même beaucoup moins grossier que le film, et en particulier, je pense à la fin, car à la fin du film, tout le monde se rappelle que Jivago, interprété par Sharif, est dans un tramway. Dans le tramway, il a un malaise cardiaque, il aperçoit dans la rue Lara, et puis il sort du tramway, il a sa crise cardiaque au pied d'une statue héroïque soviétique, alors que dans le roman, c'est tout de même beaucoup plus fin. Il est effectivement dans un tramway, il aperçoit une femme à cheveux gris, mais c'est un personnage de troisième plan qui était apparu dans le livre, et il meurt tout simplement là, et ça montre, à mon avis, de manière plus fine, ce qu'était la vie de Jivago, et peut-être ce qu'était la vie pour la plupart des gens en Union soviétique, c'est-à-dire une vie de déception perpétuelle.
Oui, une vie de déception et puis d'absence de l'autre, de l'être aimé, ou de l'idée de l'absence qui pèse en permanence. On ne sait pas si dans la nuit personne ne va venir frapper à votre porte pour vous enlever, vous condamner, vous juger, vous condamner et vous tuer. Donc effectivement, là, Jivago met beaucoup de lui, et le livre Docteur Jivago se termine par ces poèmes qu'il a écrits lorsqu'il est resté seul dans cette maison de Varikino, donc lorsque Lara et Larissa est repartie en Extrême-Orient. Et c'est intéressant que le livre se termine sur cette touche là qui évidemment est pas restituée dans le film, parce qu'on est dans la poésie, on est dans la littérature pure, et qui sont des poèmes qui disent beaucoup de ce qu'était à la fois Jivago et donc Pasternak, cet amour perdu, cet amour au sein de la nature, un peu préservé justement des horreurs du monde. Le poème notamment Séparation, qui est très très beau. Et je crois que c'est ça que veut dire Jivago à la fin, c'est il reste finalement l'amour de tout cela.
Nous allons maintenant entendre le thème principal du film que David Lean a tiré du Docteur Jivago, la chanson de Lara, mise en parole et chantée en russe par Ivan Rebrov, le compositeur, et Maurice Jarre. Oh,
Пісню мою, мою, п'єліна, п'єлі солдати.
Jean-Christophe Buisson, le personnage du docteur Jivago, semble prôner quelque, enfin, il ne prône rien, évidemment, mais représenter quelque chose qui serait comme le droit au désintérêt. Je dirais même pas le désengagement, parce que c'était une notion qui n'existait pas à l'époque. Et c'est une chose que Pasternak, dans sa vie, a su faire avec assez d'habileté sous le régime, où il n'a pas été très embêté, sauf que on sait qu'il y a quand même des choses qu'aurait pu être très très dangereuse. Il y a par exemple l'histoire d'un coup de téléphone terrible de Staline à Pasternak au moment de l'emprisonnement de Mandelstam.
Oui, bien sûr, parce que Mandelstam était un ami. Tous ces écrivains étaient parqués d'une certaine manière à proximité de Moscou, vivaient dans des datchas. J'ai visité d'ailleurs la datcha où était Pasternak, où il y a encore son bureau, donc c'est assez...
Ça appartient à la famille ou c'est...
Non, maintenant c'est des musées, absolument. Et donc on voit bien comment Staline tenait ces gens-là à proximité, ils avaient une forme de liberté, c'était au milieu de la forêt, pas très loin de Moscou, mais ils se surveillaient mutuellement, ils parlaient, parfois ils disaient des choses assez terribles, y compris sur Staline, mais Staline savait que Pasternak ne le portait pas forcément dans son cœur, mais il ne voulait pas qu'on touche à sa tête, parce qu'il disait que c'est l'hôte des nuages. Il avait une formule pour une fois assez jolie dans sa bouche, et effectivement... Pasternak jouait avec ça. Il se savait finalement assez protégé parce que, comme Jivago dans le roman, ses poèmes plaidaient en sa faveur.
Le coup de téléphone de Staline, il faut que je le dise parce que pour pas rester allusif, lui-même l'a rapporté après, c'est qu'au moment où Mandelstam a été emprisonné, grâce à l'intervention de Boukharine, il n'a pas été tué tout de suite. Et Staline a appelé Mandelstam en lui disant « Mais soyez rassurés, on va s'occuper de lui ». Et il lui a posé la question « Mais tout de même, vous êtes son ami ». Chose terrible de la bouche de Staline. Ce qu'il y a d'intéressant, Jean-Christophe Buisson, dans l'histoire du docteur Jivago, c'est l'histoire de l'histoire du docteur Jivago. C'est un livre qui a été publié, comme je le disais au tout début, en Italie.
En Italie d'abord, avec un éditeur qui était communiste, mais qui est passé outre ce communisme parce qu'il a cru voir dans ce livre, ou l'a décelé dans ce livre, quelque chose qui relevait d'autre chose, du pamphlet politique, parce qu'effectivement, ce n'est pas un pamphlet politique, de la grande littérature. Et malgré la pression du Parti communiste italien qui était très fort, mais il a réussi à faire publier Docteur Jivago. Mais c'est l'Union soviétique qui s'est elle-même tiré une balle dans le pied en condamnant violemment Pasternak, en disant c'est une brebis galeuse, en faisant des pressions sur sa famille, et à tel point que tout le monde s'est intéressé à ce livre et qu'évidemment il a reçu le prix Nobel de littérature, qui était un bon moyen évidemment d'accentuer la pression.
Mais le récit en détail même de l'histoire de la publication est à mon avis un résumé de l'histoire des rapports entre l'Ouest et l'Est dans cette période-là, car donc le manuscrit est arrivé à Feltrinelli. C'était lui l'éditeur,
italien, ouais.
Par un type qui lui servait d'agent à Moscou. Il l'a publié malgré des pressions considérables. Et vous l'avez dit, il était communiste, Feltrinelli, c'était un fils de famille qui voulait expier son argent. Et il a subi des pressions considérables de Togliatti, qui était le chef du Parti communiste italien, qui lui a demandé de ne pas publier. Et il faut se rappeler maintenant... Les jeunes gens qui écoutent, le communisme, c'est une chose lointaine. À l'époque, il y avait non seulement l'URSS, mais il y avait 25% de l'électorat dans chaque pays occidental.
Bien sûr.
C'était énorme.
Bien sûr. Et Togliatti, d'ailleurs, il y a même une ville qui porte encore son nom en Union soviétique.
Encore.
Aujourd'hui encore, absolument. Pour dire quel était son poids, quel était le poids, effectivement, du communisme dans le milieu intellectuel et toutes les pressions qu'il a fallu surmonter de la part de Feltrinelli, effectivement, pour publier ce livre, avec aussi le soupçon qui n'était pas totalement idiot d'être aidé par la CIA, par les services secrets occidentaux américains, qui ont tout de suite vu quelle partie tirer de cette affaire et quel symbole allait représenter effectivement Jivago. Mais de la même façon que Vie et Destin quelques années plus tard, je pense vraiment que Docteur Jivago c'était un grand responsable soviétique qui considérait que Vie et Destin était une bombe atomique. Parce que dans Vie et Destin, on expliquait que le nazisme et le communisme, d'une certaine manière, avaient beaucoup, beaucoup de points communs. C'était une bombe d'oser comparer ces deux systèmes totalitaires par Vassili Grossman, qui est quand même un écrivain soviétique affirmé. Et de la même façon, Jivago disait, entre les lignes dans ce livre, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, oui, le stalinisme est responsable d'horreur, mais ce stalinisme est le fruit naturel, l'enfant naturel du léninisme. Et ça, c'était quelque chose... qu'on n'entendait pas même à l'Occident, où il était hors de question de même après la phase de déstalinisation, et encore en France elle était relative, oui, d'accord, Staline a fait des horreurs, mais le communisme est une idée sympathique qu'il faut conserver.
Feltrinelli, à la suite des pressions de Togliatti, et je dis ça pour signaler la différence entre un stalinien français et un communiste italien à l'époque, c'est que Feltrinelli a répondu « je renoncerai au parti plutôt qu'à la publication ». Et c'est ce qu'il a fait.
C'est ce qu'il a fait, mais encore une fois, Feltrinelli n'était pas non plus un cadre du parti communiste italien. Et Togliatti était vraiment le leader naturel. C'est lui qui, en 1945, a quand même accepté de ne pas faire le coup d'État, comme Thorez en France, parce que Staline considérait que le communisme allait pouvoir s'imposer en Italie et en France par la voie démocratique, par la voie électorale, et que l'urgence dans les années 45-50, c'était de faire que tous les pays d'Europe balkanique, orientale et centrale deviennent communistes. On verrait plus tard pour l'Occident. Ce qu'il n'avait pas calculé, c'est qu'entre-temps, l'Occident se reconstruirait, avec notamment le plan Marshall, avec les Américains, et il serait impossible à renverser comme il le souhaitait, et que des gens comme Thorez et Togliatti, qui étaient des staliniens pur jus, se trouveraient coincés d'une certaine manière.
On parlait des pressions sur les éditeurs, ou en tout cas l'éditeur principal en Europe, dont il faut dire qu'on en parle beaucoup parce que Feltrinelli avait les droits mondiaux du livre, ça explique aussi beaucoup de choses. Quelles ont été les pressions sur Pasternak lui-même ?
Il était exclu de l'Union des écrivains soviétiques, il était considéré comme une brebis galeuse, isolé, mais il n'a pas été arrêté, enfermé ou déporté parce que justement il était protégé par le prix Nobel de littérature et par ce qui arrivera plus tard aux dissidents soviétiques après les accords d'Helsinki en 1975. Il était très connu. Donc la pression était surtout sur sa femme et sur sa maîtresse qui sert de modèle à Olga, qui sera déportée dans un goulag à deux reprises, qui mourra d'ailleurs dans les années 90, à peine réhabilitée, puisque même dans les années 90, donc après la chute du communisme, on dira que finalement elle était peut-être une espionne du KGB et qu'elle fournissait des renseignements. Donc jusqu'à au-delà de sa mort, son image aurait été salie. Mais Pasternak mourra seulement 2 ans après son prix Nobel de littérature, donc il n'aura pas le temps peut-être d'être victime de pressions encore plus fortes que celles que j'ai décrites.
Oui, en même temps, il a été laissé relativement tranquille, mais il y a un discours du président ou d'un membre de l'Union des écrivains en public devant Khrouchtchev où il dit Pasternak est pire qu'un cochon car un cochon ne chie pas sur ce qu'il mange. L'expression même en présence du chef de l'État tout de même. Donc même si on se sait protégé, quel doute il a dû avoir. Et par-dessus marché, on a essayé de le faire partir de Russie, de l'Union soviétique.
Oui, c'est-à-dire qu'on lui a dit, vous allez chercher votre prix Nobel de littérature mais à Stockholm, mais vous ne reviendrez pas. Et lui, et c'est ça qui est intéressant et qui fait que les Russes l'apprécient beaucoup, c'est qu'il a jusqu'au bout, de la même façon que ses parents étaient partis dans les années 20, avaient quitté cette Russie soviétique qui leur faisait peur, lui a toujours considéré que il n'a pas à quitter son pays, il est attaché à son pays, il est le poète et qu'il peut d'une certaine manière louvoyer et incarner quelque chose en Russie sans être aux ordres ni des uns ni des autres. C'est vraiment ce destin individuel et d'ailleurs qui rendait fou encore une fois le pouvoir soviétique, parce qu'on n'a pas de destin individuel, on doit être le héros d'une cause collective lorsqu'on est en Union soviétique. Et lui, jusqu'au bout, a tenu bon en disant « je ne suis pas aux ordres de l'étranger, je ne fuis pas, je suis russe avant tout et je demeure dans mon pays, même si je dois en souffrir beaucoup ».
Jean-Christophe Buisson, que vous a appris le personnage du docteur Jivago ?
Il m'a appris qu'à ne pas choisir, on se prépare des lendemains très difficiles sur la lâcheté de l'homme masculin. C'est-à-dire que Jivago, au fond, a payé le fait de ne pas vouloir choisir, mais c'est ce qui fait souvent les bons romans.
C'était Personnage en personne, le 101e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage des Aristochats, créé par Walt Disney dans Les Aristochats.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Meryl Moneghetti, prise de son Alain Joubert.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté.